de la vie et de la terre.
Thème 3. Corps humain et santé. Terminale spécialité. Grand C. Comportement et stress. Vers une vision intégrée de l'organisme. Chapitre 1 et 2. L'adaptabilité et le débordement de l'organisme. Juste imaginez, vous êtes au détour d'un chemin de forêt et vous vous promenez tranquillement. Il fait bon, les oiseaux chantent. En prenant ce virage, vous vous retrouvez nez à nez avec...
Ah ! Un alligator !
Eh oui, avec le réchauffement climatique, les alligators ont envahi la France et peuplent maintenant la forêt solognotte. Décidément, ce n'est pas votre jour. Vous êtes face à l'un d'entre eux. Et pas le moindre, il est énorme. Vous le sentez immédiatement, vous transpirez, votre fréquence cardiaque explose, votre respiration s'intensifie. Vous ne réfléchissez même plus et vous bondissez. Puis vous prenez vos jambes à votre cou pour réaliser la meilleure performance sportive de toute votre vie. Vous êtes en état de stress. Vous avez justement pu réaliser cette prouesse grâce au stress. Autre temps, autre réalité. Imaginez un peu. Vous êtes face à un jury du grand oral. Alors, qu'allons-nous voir dans ce chapitre ? Qu'est-ce que le stress d'abord ? Comment notre corps s'adapte à une situation de stress ? Et si le stress devient permanent, alors que se passe-t-il ? Comment réagissons-nous ? Grand 1, comprendre le stress. Et grand A, bon ou mauvais stress. Les perturbations de l'environnement peuvent générer des situations stressantes qui nécessitent à notre organisme d'être préparé à une réponse immédiate et adaptée. Ce sont des situations importantes pour l'individu et sa survie, et la réponse mobilise plusieurs niveaux d'intégration et d'adaptation pour avoir la réponse la plus appropriée immédiatement, comme par exemple l'attaque, la fuite ou l'immobilité. C'est ce qu'on appelle en anglais les 3 F, fight or flight or freeze. C'est ce qu'on appelle le stress aigu, ou bon stress s'il n'est pas paralysant. La réponse de l'organisme est courte dans le temps et un retour à la normale ou résilience se fait rapidement, en principe pas plus d'une heure après. Si jamais l'état de stress continue dans le temps, l'organisme ne pourra plus être en résilience, ce qui entraînera des dommages. C'est ce qu'on appelle le stress chronique ou mauvais stress. Ainsi, les agents stresseurs sont différents éléments de notre environnement qui déclenchent une situation de stress et une réponse multiple de notre organisme qui va nous permettre de nous adapter à une situation jugée critique. Si je reprends mon introduction, alors certes, elle est absurde, mais il n'empêche qu'elle traduit tout à fait cet état de stress et ce stress aigu. C'est bien entendu cet état dans lequel se retrouve une proie face à son prédateur. Avant de continuer, voyons quelques définitions. Le stress, c'est l'ensemble des réactions d'adaptation d'un organisme soumis à des pressions ou des contraintes brutales de l'environnement, appelé encore agent stresseur. Le stress aigu, c'est un stress déclenchant une adaptation immédiate de notre organisme en réponse à une situation courte dans le temps. Le stress chronique, c'est une situation de stress répétitive dans le temps engendrant des perturbations dommageables pour notre organisme. Agent stresseur, c'est l'ensemble de paramètres conduisant à un état de stress. Et enfin, résilience, c'est le retour à une situation normale, non stressante, et donc un retour à la normale des effecteurs de notre corps. Grand B, caractéristique du stress aigu. Un événement isolé, ressenti comme une menace ou une épreuve, une situation d'incertitude ou d'imprévisibilité, conduisent à un stress aigu et à la recherche d'un nouvel équilibre. La mise en place des réponses psychobiologiques est généralement inconsciente. Les effets de ce stress sont multiples, dont les premiers sont une augmentation de la fréquence cardiaque, du rythme respiratoire, de la glycémie et de la sudation. Ces effets visent tous à mobiliser une réponse extraordinaire de notre corps. On a donc un système de régulation complexe mobilisant un ou plusieurs récepteurs, entraînant une réponse multiple de l'organisme, activant à la fois le système nerveux et le système hormonal afin d'optimiser différents effecteurs. Il en va de la survie de l'individu ou d'une performance hors du commun. Donc retenez bien les quatre effets: augmentation de la fréquence cardiaque, du rythme respiratoire, de la glycémie et de la sudation. Grand C, les acteurs physiologiques du stress. Si les effecteurs sont facilement identifiables, en revanche, le reste des systèmes mobilisés nécessite d'être étudié plus finement. Le stress mobilise à la fois le système nerveux, comme on vient de le dire, et le système hormonal. Le système nerveux est le premier mobilisé, directement en relation avec nos cinq sens mis en alerte. Le cortex préfrontal analyse le niveau de l'alerte et est connecté au système limbique, qui est le centre nerveux de nos émotions, qui intervient également dans nos apprentissages et qui joue aussi un rôle dans le contrôle de sécrétions endocrines d'hormones spécifiques. Puis, stimulé par le système nerveux lui-même, le système hormonal intervient. Dans le système hormonal, on distingue d'abord les surrénales, qui sont des glandes localisées sur les reins. Elles contiennent une zone au centre appelée médullaire et qui pour cette raison est appelée médullo-surrénale et sécrète une hormone, l'adrénaline. Mais il existe aussi une zone périphérique dite corticale ou encore appelée cortico-surrénale qui sécrète une autre hormone tout aussi importante, le cortisol. Mais ce n'est pas tout. Enfin, intervient aussi le complexe hypothalamo-hypophysaire qui sécrète une neurohormone hypothalamique, la CRH ou Corticotropic Releasing Hormone, qu'on appelle en français corticolibérine, et une hormone hypophysaire, la CTH ou Adenocorticotropic Hormone, mais retenez ACTH. Ainsi, nous venons de voir tous les acteurs du stress aigu. Maintenant, voyons l'adaptation de notre organisme face à ce stress. Donc grand 2, l'adaptation de notre organisme à un stress aigu, et grand A, une phase courte d'adaptation permettant une réponse immédiate. Dans la perception de l'agent stresseur, ce sont tous nos sens qui sont mobilisés. Les aires des récepteurs transmettent au cortex préfrontal qui perçoit l'alerte. Le cortex préfrontal stimule alors le système limbique, et plus particulièrement l'amygdale et l'hippocampe. Si l'hippocampe est responsable de la mémorisation, l'amygdale intervient plus dans les émotions, mais également la stimulation de glandes hormonales. L'activation de l'amygdale, à cause d'un agent stresseur, permet donc la naissance de potentiel d'action dans un nerf qu'on appelle le nerf splanchnique. C'est un nerf dit sympathique ou orthosympathique. Ce dernier stimule alors la médullo-surrénale qui sécrète à son tour une hormone, l'adrénaline. Comme on vient de nommer le nerf splanchnique de nerf sympathique ou orthosympathique, arrêtons-nous un instant sur ce type de système nerveux. Ce type de nerf appartient au système nerveux autonome. Or, le système nerveux autonome est divisé en deux parties principales. Les nerfs dits sympathiques, comme le nerf splanchnique, sont appelés aussi orthosympathiques. Et puis, d'un autre côté, il existe aussi les nerfs parasympathiques qui s'opposent aux nerfs sympathiques ou orthosympathiques et qui vont avoir l'effet inverse. Ce système nerveux autonome contrôle tout particulièrement nos organes et nos viscères. Après que le système nerveux autonome ait reçu des informations au sujet du corps et de l'environnement externe, il répond en stimulant des processus physiologiques, en général par le système sympathique ou en les inhibant, en général par le système parasympathique. Le système nerveux autonome contrôle les processus physiologiques internes, comme par exemple la tension artérielle, le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire, la température corporelle, la digestion, le métabolisme qui a un effet sur le poids corporel, l'équilibre hydrique et des électrolytes comme le sodium et le calcium hyper importants, la production de fluides corporels tels que la salive, la sueur, les larmes, la miction, c'est-à-dire la production d'urine, la défécation et même la réponse sexuelle. De nombreux organes sont contrôlés par le système nerveux autonome, c'est-à-dire essentiellement par le système sympathique qui a un effet, et le système parasympathique qui a l'effet contraire. Ainsi, la plupart du temps, les deux systèmes ont des effets opposés sur le même organe. Par exemple, le système sympathique augmente la tension artérielle, tandis que le système parasympathique la réduit. Dans l'ensemble, ces deux systèmes collaborent pour veiller à ce que le corps réagisse de façon appropriée à son environnement et aux différentes stimulations qu'il reçoit. Alors, si dans l'ensemble, le système sympathique stimule et le système parasympathique lui inhibe, il existe un phénomène inverse où c'est plutôt le système sympathique qui inhibe et le système parasympathique qui stimule. C'est le cas de la digestion. En fait, cela est possible que parce qu'il existe deux messagers antagonistes, ou neurotransmetteurs, qui sont utilisés pour communiquer au sein du système nerveux autonome. D'une part l'acétylcholine, et d'autre part la noradrénaline. Noradrénaline et adrénaline sont très très proches structurellement. La noradrénaline et l'adrénaline sont très très proches structurellement. En fait, l'adrénaline est une hormone, la noradrénaline, un neurotransmetteur. Alors revenons à nos moutons. Une fois l'adrénaline libérée, cette dernière va agir sur les récepteurs du cœur, des muscles respiratoires, des glandes sudoripares et du foie et des muscles, agissant ainsi directement sur la glycogénolyse. L'adrénaline stimule une plus grande activité de tous ces organes, mais va diminuer l'activité de la digestion. Ce n'est pas l'urgence. La réponse immédiate de ces organes favorise une plus grande oxygénation de nos muscles. La fréquence cardiaque augmente et le rythme respiratoire aussi. Mais aussi une plus grande alimentation en sucre, telle que la glycogénolyse libère immédiatement le glucose dans les muscles et la glycémie augmente grâce au foie. Le cerveau et les muscles sont préparés à l'urgence. On peut fuir ou se battre. La phase courte est représentée par le document 6 que vous pouvez simplifier juste avec cerveau et puis les origines finalement des organes avec juste des encadrés pour montrer finalement le cheminement de l'information. Seulement, s'il existe une phase courte, il existe aussi une phase longue que nous allons décrire maintenant. Grand B, une phase plus longue d'adaptation. Cette phase plus longue d'adaptation permet d'augmenter l'efficacité de la phase courte et donc renforce la préparation de l'organisme à l'urgence. C'est un effet amplificateur. Mais elle permet aussi, in fine, le retour à la normale, c'est-à-dire la résilience. Parallèlement au système limbique, le cortex préfrontal stimule aussi l'hypothalamus et, plus exactement, les neurones parvocellulaires de cet hypothalamus, qui est d'ailleurs lui-même stimulé par le système limbique. C'est donc un renforcement. Les neurones parvocellulaires, à leur tour stimulés, dans l'hypothalamus, produisent une cortico-releasing hormone, ou CRH, hormone de libération de corticotropine, encore appelée corticolibérine. Cette CRH, et c'est ça qu'il faut retenir, une fois sécrétée, est transportée par la veine porte hypothalamo-hypophysaire vers l'hypophyse antérieure, encore appelée adénohypophyse. Les cellules hypophysaires sécrètent à leur tour une hormone, l'ACTH. Retenez ACTH, ça suffit. Cette hormone est libérée dans le sang et agit sur les glandes surrénales directement, et plus exactement sur les corticosurrénales. Ainsi, l'enveloppe extérieure des surrénales, ou corticosurrénales, sécrète du cortisol qui va avoir pour effet de renforcer d'abord la sécrétion d'adrénaline et va agir directement sur la glycogénolyse pour préparer le corps à réagir, c'est-à-dire une augmentation de glycémie, de glucose qui va fournir en énergie. Il inhibe la prise alimentaire, la digestion, la croissance et le système immunitaire qui sont inutiles dans cette urgence. Il exerce aussi un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion d'ACTH au niveau hypophysaire, mais aussi sur la CRH au niveau hypothalamique, et permet donc un retour à la normale de tout l'organisme, ce qu'on appelle une résilience. Le schéma du document 7 est à apprendre par cœur. Ce schéma-là vous permet de récapituler tout ce que l'on vient de dire auparavant sur le mécanisme. Par ailleurs, une remarque importante. Tout ce que l'on vient de dire sur le stress aigu est à savoir pour les écrits. Il est donc très important de bien maîtriser cette partie-là. Et d'ailleurs, le stress fait la jonction avec la contraction musculaire, avec la capacité de réguler le glucose, avec la capacité de fournir en énergie. Donc il est possible de faire tout un tas de sujets croisés grâce au stress. Alors voyons maintenant, si le stress devient répétitif, que se passe-t-il sur notre organisme? Grand 3, lorsque le stress devient répétitif. Même si cette partie est à l'oral, je vous conseille vivement de vous laisser imprégner par ce qui va être dit derrière. Tout simplement parce que dans les exercices 2, vous pouvez avoir des études de doc qui font un tout petit peu la jonction sur le stress chronique. Ça s'est déjà vu. Le stress aigu varie d'un individu à un autre, car il dépend de facteurs psychologiques, sociaux, émotionnels et génétiques. C'est d'ailleurs pour cela que le combat ou la fuite n'intervient pas à un même degré entre nous. On vient de voir que les régulations se font en cascade et qu'elles se terminent par un feedback négatif, ce qui permet un retour à la normale ou une résilience. Mais que se passe-t-il si le stress se répète ? C'est-à-dire si les stimulations se succèdent et s'enchaînent et finissent par déborder l'organisme. Voyons donc le mécanisme du stress chronique et de ses effets. Grand A, caractéristiques et symptômes du stress chronique. Soit par la répétition de stress, soit par un stress trop intense, l'individu n'arrive plus à réguler, on dit qu'il est débordé. Deux stress peuvent être regroupés car ils auront les mêmes effets, un non-retour de la résilience. D'abord, le stress post-traumatique, dans le cas d'un stress très intense. Ou alors, on parle de stress chronique dans le cas d'un stress répété trop régulièrement. Quoi qu'il en soit, de toute manière, les effets sont les mêmes. On distingue donc trois phases progressives dans une exposition à un stress chronique. D'abord, la phase d'alarme, où l'organisme se prépare au combat ou à la fuite. Il s'agit d'une première exposition au stress, et cette phase correspond au stress aigu. Donc, phase d'alarme, stress aigu. Puis, une phase de résistance, où là, l'organisme continue à être exposé à un stress répété, les sécrétions d'hormones sont répétées, certes, et le système ne rentre plus en résilience. Il commence à y avoir un débordement. Puis, une phase d'épuisement, où l'organisme développe des symptômes de grande fatigue et de pathologie, le mettant en danger. Le document 8 vous décrit les effets des phases progressives d'un stress chronique. Ainsi, dans la phase d'alarme, vous avez des effets immédiats du stress. Ça se traduit par une décharge d'adrénaline, avec accélération du rythme cardiaque, augmentation du débit sanguin, de la fréquence respiratoire et de la transpiration, de la dilatation des pupilles, un afflux de sang vers les muscles et le cerveau, un redressement des poils et une mobilisation évidemment du glucose. Toutes les ressources sont mobilisées pour que l'organisme s'adapte rapidement. Mais à ce stade, l'individu fait face, parce qu'on est au niveau d'un stress aigu, c'est la première fois qu'il est exposé. Au cours de la phase de résistance, on a un effet du stress qui va durer d'une heure à plusieurs jours. En fait, si la situation stressante se prolonge, tout simplement, des douleurs musculaires vont apparaître, des spasmes, des maux de tête, des troubles du sommeil, des brûlures d'estomac. Et à ce stade, l'individu fait toujours face, mais on est dans une situation tendue et l'individu est arrivé à ses limites. Vous voyez aussi que c'est variable dans le temps, que ça va d'une heure à plusieurs jours. Ça dépend et d'un, de la situation, et de deux, de la capacité de résistance de l'organisme. Finalement, l'individu atteint une phase d'épuisement si les effets du stress perdurent plus d'un mois. Alors l'organisme finit par ne plus avoir la capacité de faire face, les défenses immunitaires s'affaiblissent et sont touchées, puisque rappelez-vous, dans le cas de l'urgence, les défenses immunitaires sont inutiles, donc diminuées. Une grande fatigue chronique s'installe, voire un état dépressif, pouvant mener même jusqu'au suicide quand ce dernier est très grave. À ce stade, évidemment, l'individu ne fait plus face. Alors, récapitulons les symptômes liés à ce stress, qui sont très variables en intensité d'un individu à l'autre. Alors, on va les catégorier. D'abord, les effets physiques ou symptômes physiques, tels que des douleurs, des désordres intestinaux, des maux de tête, de l'hypertension pouvant aller jusqu'à un malaise vagal, c'est-à-dire on tombe dans les pommes, un système immunitaire affaibli. Au niveau cognitif, c'est-à-dire de l'apprentissage, tels que des troubles de l'attention, un manque de concentration, des difficultés à mémoriser, même à trouver ces mots. Émotionnel, tels que de l'anxiété, de l'apathie, de la tristesse, de la déprime et une grande fatigue pouvant aboutir à la dépression. Enfin, comportementaux, tels qu'on développe de l'agressivité, des troubles du sommeil, sommeil entrecoupé de réveil ou même d'insomnie, pouvant aller jusqu'à une négligence d'hygiène corporelle. Alors, toutes ces détériorations ou ces modifications profondes interviennent parce qu'il existe des modifications au niveau cellulaire. Donc, grand B, les modifications structurales, cellulaires, liées au stress chronique. Effectivement, avec la répétition du stress, l'organisme n'arrive plus à réguler. Les hormones sont synthétisées et sécrétées sans pour autant permettre une résilience du système. On a donc une surexposition au stress engendrant, en fait, une sécrétion continue de cortisol. Or, par exemple, le fort taux de cortisol durable dans le temps ne permet plus un rétrocontrôle efficace. Autrement dit, notre cerveau entend qu'il y a un excès de cortisol, mais ne revient pas à la normale, et provoque alors des modifications profondes, surtout au niveau du cerveau lui-même. De nombreux travaux ont montré l'existence de modifications structurales qui illustrent une plasticité cérébrale, dite maladaptative, dans différentes situations expérimentales de stress, donc dans un contexte négatif. L'expression des récepteurs au cortisol est diminuée sous l'effet de la surexposition des récepteurs eux-mêmes à l'excès de cortisol, ce qui génère des conséquences structurales sur les neurones. Une mise en situation de stress forcée, répétée, à partir de conditionnements relativement simples, comme par exemple une nage forcée, par exemple chez les souris, mais regardons chez l'homme, comme le passage d'un avion régulier au-dessus de sa maison. Donc ça permet, en fonction de l'intensité, d'aller jusqu'à un stress de résignation acquise. L'organisme abandonne. Les études neurologiques, comme par exemple celles portées sur l'hippocampe, révèlent alors une régression des dendrites, c'est-à-dire des connexions, avec une perte formidable des connexions synaptiques et un déficit de la neurogenèse, entre autres. Or, l'hippocampe est la région du cerveau spécialisée dans la mémorisation. L'individu ne peut donc plus mémoriser correctement, il en va de même pour d'autres régions du cerveau, expliquant ainsi des troubles de l'attention, l'incapacité à se concentrer et un état dépressif et un état d'anxiété accru. À noter que ces modifications sont sur plus d'un mois. Pourquoi ? Parce que la résorption des dendrites, ça met du temps. Pour généraliser, les changements structuraux du cerveau touchent en particulier l'hippocampe, le système limbique, dont l'amygdale, et le cortex préfrontal. Un retour à la normale ou une ablation des surrénales permet aux neurones de retrouver leur structure d'origine. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale de novo ou de nouveau. Alors pour aller plus loin, on observe que si on applique un stress chronique ou si on injecte un fort taux de cortisol chez un rat, cela altère certains de ses récepteurs à la sérotonine, qui est un neurotransmetteur. Cela va provoquer une augmentation des récepteurs corticaux et une diminution des récepteurs dans l'hippocampe. Ces mêmes changements sont observés chez des humains victimes de suicides ou de maladies provoquant une hypersécrétion de glucocorticoïdes, telles que la sécrétion de cortisol. Or, l'administration chronique d'antidépresseurs provoque les changements opposés sur les récepteurs de la sérotonine à ceux produits par un stress chronique. Elle renverse aussi l'hypersécrétion des hormones du stress. Par ailleurs, certains récepteurs aux glucocorticoïdes sont situés dans l'hypothalamus et l'hippocampe, deux structures impliquées dans le contrôle de notre humeur et notre capacité à ressentir du plaisir. Ces récepteurs étant sensibles à la fois au niveau et à la durée d'activation des différents corticostéroïdes dans l'organisme, leur dynamique d'activation aura des répercussions directes sur les réponses comportementales adoptées. Grand C, autres modifications liées au stress chronique. Vous l'avez vu en seconde, à quel point notre microbiote est important. Mais ici, un mauvais fonctionnement de l'axe microbiote intestin-cerveau a été relié à un certain nombre de troubles psychiatriques, y compris le stress, l'anxiété, la dépression, l'autisme, la schizophrénie, la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Cela est dû à la sécrétion de molécules par certaines bactéries du microbiote qui provoquent l'activation de sécrétions d'ACTH, ce qui emballe la sécrétion de cortisol. C'est pour cette raison que le microbiote intestinal a été qualifié aussi de deuxième cerveau. Grand D, les traitements pour lutter contre les effets du stress chronique. Petit 1, comment moduler les effets du stress ? Les symptômes du stress chronique ne deviennent pathologiques que lorsqu'ils finissent par avoir un caractère invalidant pour la personne et que cette dernière soit en souffrance, autrement dit, qu'elle ait atteint sa phase d'épuisement. Il est possible alors de prendre des anxiolytiques de la famille des benzodiazépines et ces derniers sont myorelaxants. Ce qui est remarquable, c'est que l'effet est rapide et peu toxique si la durée de prise des anxiolytiques est courte. Mais comme toute substance active, il existe des effets indésirables, dont une somnolence, une certaine sédation, une anesthésie, et des troubles de l'attention. Les effets sont délétères sur le long terme, c'est-à-dire qu'ils vont endommager votre organisme. C'est pourquoi la prise de tels médicaments doit être suivie par un protocole médical rigoureux et un suivi par votre médecin de famille ou un psychiatre. Mais alors, quel est le mécanisme de tels médicaments ? Petit 2. Comment agissent les benzodiazépines ? Ces anxiolytiques appelés benzodiazépines agissent sur certains récepteurs à GABA de neurones inhibiteurs, les récepteurs GABA-A. Donc ça, c'est à retenir. Ces neurones permettent d'éviter un épuisement du système nerveux et modulent l'intégration des messages nerveux. En se fixant sur son récepteur, le GABA relargué dans la fente synaptique provoque alors une hyperpolarisation postsynaptique, ce qui crée un potentiel postsynaptique inhibiteur, comme nous avons pu le voir dans la partie qui est le grand A, le système nerveux et les réflexes. Dans le cas du récepteur GABA-A, il s'agit d'une hyperpolarisation liée à une entrée d'ion chlorure dans le bouton postsynaptique, tandis que pour le récepteur GABA-B, il s'agit plutôt d'une sortie d'ion potassium. Mais bon, peu importe. Les benzodiazépines peuvent se fixer sur les récepteurs GABA-A en renforçant l'effet du GABA. Ce sont des agonistes, mais en plus, il existe un effet amplificateur permettant une plus grande ouverture du canal chlorure. Il en résulte alors une hyperpolarisation appuyée, générant le PPSI. Cela a pour conséquence une relaxation des muscles et une diminution du stress. Le document 9 illustre bien ces effets des benzodiazépines sur les canaux à chlorure. Et vous pouvez en retenir le principe en simplifiant peut-être la membrane postsynaptique par deux traits. La question qui vient par la suite, c'est « D'accord, grâce à des médicaments, j'arrive à faire baisser mon niveau de stress. Mais n'y a-t-il pas des moyens plus naturels pour le faire ?» Petit 3. Est-il possible de faire baisser son niveau de stress naturellement sans médicaments ? Certaines pratiques non médicamenteuses permettent de limiter les dérèglements liés au stress et de favoriser une résilience. La pratique d'une activité sportive régulière permet d'entretenir cette résilience. En effet, lorsqu'on fait un effort physique régulier, indépendamment du largage du glucose dans le sang par le foie, ce dernier libère aussi du tryptophane. C'est un acide aminé précurseur de la sérotonine. Or, la sérotonine est un neurotransmetteur agissant sur le sentiment de bien-être et un régulateur de nos humeurs. Ce neurotransmetteur a une action jouant sur la résilience. Par ailleurs, la sérotonine est une neurohormone qui peut, si elle est présente en trop grande quantité, être convertie en une autre hormone qu'on appelle la mélatonine. Cette dernière assure un bon endormissement et un sommeil réparateur, c'est pourquoi on l'appelle aussi l'hormone du sommeil. Sinon, il est bien connu que la pratique du yoga ou de la méditation semble aussi augmenter la résilience au stress. Dans des études menées récemment, c'est-à-dire notamment en France sur le moine bouddhiste Mathieu Ricard et scientifique, il semble que certains marqueurs de l'immunité soient en hausse, tandis que le taux d'ACTH, lui, est en baisse. Même si ces données sont prometteuses, elles doivent être encore consolidées par d'autres études. Maintenant, tournons-nous vers votre grand oral. Donc, une autre pratique pour faire diminuer le stress, notamment avant une prise de parole face à un auditoire, consiste à pratiquer une ventilation forcée, contrôlée, sur la durée. Cela permet de se concentrer sur quelque chose de basique, occuper l'esprit à une tâche simple, physiologique, et ne pas penser aux agents stresseurs, juste respirer, inspirer, expirer, prolonger. En fait, les agents stresseurs, c'est quoi? C'est le monde, les connaissances à faire passer, la prestation orale. Donc, juste concentrez-vous sur la respiration et ça devrait diminuer votre niveau de stress. Mais en plus de cela, le tonus musculaire est abaissé, l'activité de l'amygdale est diminuée, ainsi que le taux de cortisol. Cela permet d'éviter d'être paralysé face à cette performance orale que vous avez à cœur de réussir. Pour conclure, le stress aigu est une réaction absolument nécessaire pour la survie d'un individu. Les agents stresseurs permettent de mettre en place une cascade de réactions biologiques absolument phénoménale. Ces agents sont perçus par le cerveau qui active à la fois les médulo-surrénales directement par voie nerveuse et provoque la sécrétion d'adrénaline. Et d'autre part, les cortico-surrénales par le biais de l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien générant la sécrétion de cortisol. Le tout provoque une augmentation de la fréquence cardiaque, du rythme respiratoire, du tonus musculaire et de la glycémie, et diminue ainsi le système digestif et immunitaire inutile à votre réaction. Tout individu est prêt à l'urgence, fuir ou se battre. Les sécrétions hormonales permettent un rétrocontrôle négatif, assurant ainsi la résilience. Néanmoins, si cette situation dure dans le temps ou se répète, le stress chronique s'installe et devient handicapant, nuisible à l'organisme. On dit que l'organisme est débordé et n'arrive plus à réguler. Il a perdu toute résilience. S'enclenchent alors des mécanismes délétères pouvant aboutir à l'épuisement. Pour éviter cette dernière phase, l'individu peut faire appel à des méthodes médicamenteuses, telles que les benzodiazépines, qui doivent être étroitement suivies par un médecin. Ce sont des anxiolytiques, ou alors par des pratiques personnelles telles que le sport, la méditation, la respiration intense, permettant de diminuer le stress et en n'oubliant pas aussi une bonne alimentation afin de ne pas dérégler votre microbiote. Vous avez pu voir que ce cours est absolument passionnant parce qu'il touche directement vos systèmes de régulation et même certains états dans lesquels vous vous êtes retrouvé, je n'en doute pas. Vous avez pu voir aussi qu'il est important de maîtriser l'ensemble des données des cours précédents, sans quoi on est vite largué sur ce cours. N'oubliez pas que se rattache à ce cours aussi toute l'argumentation, expérimentale notamment, et vue en activité. Merci d'avoir écouté ce podcast, et à très bientôt pour d'autres aventures. Thank you.